Bonjour à tous, c'est Denis Brognard. Vous écoutez Vie d'aventure, un podcast où je m'entretiens avec des hommes et des femmes aux destins extraordinaires. Des aventuriers, scientifiques, photographes, navigateurs, plongeurs ou encore alpinistes. Ils ont en commun une soif d'exploration. Je vais à leur rencontre, ils se confient sur leurs exploits, leurs expériences, en traduisant par des mots leurs émotions. Une photographie sonore avec des personnages hors normes qui forcent le respect par leur courage et la dimension de leur engagement. Ces héros des temps modernes vont vous transporter dans leur monde, vous permettre de vous évader et de réfléchir avec eux à l'évolution de notre planète. Prenez le temps de les écouter, ces baroudeurs, ces voyageurs. Voici tout de suite un nouvel invité dans Vie d'aventure. Isabelle Autissier, c'est une femme aux multiples vies qui parfois s'imbriquent les unes dans les autres avec néanmoins un dénominateur commun, la nature. D'abord ingénieure agronome, puis enseignante, elle quitte cette vie normale, entre guillemets, pour embrasser un destin de marin de compétition, avant de décider d'arrêter pour ensuite écrire et prendre la présidence du WWF en France, le Fonds mondial pour la nature. Alors, n'allez surtout pas dire à Isabelle Autissier qu'elle est un garçon manqué. Elle est une femme aventurière et le revendique. Un être qui a une vraie propension à se lancer des défis ambitieux et à les mener à leur terme. Isabelle Autissier, première femme à avoir réussi à boucler un tour du monde à la voile en solitaire, c'était en 1991, et mon invitée cette semaine dans Vie d'aventure. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Comment une Parisienne, une banlieusarde, se retrouve marin de compétition ?
Oh, c'est une longue histoire, mais disons que ça commence de manière extrêmement simple par une petite fille de la banlieue parisienne qui a la chance d'aller en vacances au bord de la mer et d'avoir des parents qui adorent la voile. Donc on tire derrière nous quand on part en vacances le petit bateau, le petit dériveur avec lequel on va naviguer pendant les vacances. Donc voilà, tout ça au début est très, j'allais dire, classique, surtout pour l'époque. Première chose un peu particulière, c'est que moi j'ai 6, 7 ans, 8 ans quand on commence à m'emmener en mer. Et que c'est un peu le coup de foudre. J'adore ça. J'adore le mouvement du bateau. Voilà, ça bouge. J'ai un petit peu peur, mais ça m'amuse. Et puis c'est l'aventure. On va dans l'île d'en face. Donc on va pique-niquer. Enfin bon, voilà. Tout ça est quelque chose de très basique, de très enfantin. Mais au fond, j'ai vraiment toujours senti que cette première approche de la mer, de la nature au sens large, mais surtout de la mer, c'est un espèce de coup de foudre. Et dans ma tête de petite fille, assez vite, je me dis, alors qu'est-ce qu'on se dit précisément, quand je serai grande, je serai marin, ou quand je serai grande, je ferai le tour du monde, ou enfin voilà. Mais en tout cas, ouais. Au fur et à mesure que je grandis, que je deviens adolescente, que je continue à naviguer en famille l'été, je me dis consciemment, il faut que je me trouve un métier qui ait trait à la mer.
C'est aussi l'occasion pour toi, cette période de l'enfance, de partager cette passion avec ton papa, ton père qui est vraiment le moteur de la famille en ce qui concerne les activités voile.
Voilà, parce que lui, c'est un vrai passionné. Il est architecte de profession, donc il est très pris, je dirais, dans la semaine, etc. Mais lui, il adore la mer et la voile et il a à cœur de faire partager ça à ses filles. Et sur les 5 que nous sommes, en fait, on est 2, j'allais dire les 2 numéros pairs, moi je suis la numéro 4, à vraiment aimer ça. Et donc, il nous emmène très régulièrement, mais c'est au point que même s'il faut fêter Noël en famille, dès le 25 au soir ou le 26 au matin, on est dans la voiture pour partir en Bretagne et pour naviguer en plein hiver, même si c'est sous la neige. Maman aime bien ça aussi, mais pas au même plan, pas de la même manière. Lui est vraiment un passionné. Et il va nous communiquer cette passion et cette connaissance. Lui, il est architecte, ingénieur, et donc il va très vite nous donner aussi le sens de la météo, des courants, de la manœuvre du bateau, de quelque chose qui va aller au-delà du simplement on se promène et on s'amuse bien, quoi.
Après le dériveur, il y a le petit voilier cabine qui te permet de te rapprocher encore un petit peu plus de la course au large.
En famille, il va y avoir successivement plusieurs bateaux, à chaque fois un petit peu plus grands, qui vont nous permettre d'aller un petit peu plus loin. Donc on va finir par explorer, entre guillemets, l'Écosse, l'Irlande, l'Espagne, tous ces coins-là. Ce qui, à l'époque, dans les années 60, n'était pas si courant que ça. Hein. La plupart du temps, on se retrouve dans des endroits où on est le seul voilier. Après, donc je vais... entamer des études. Donc là, je vais chercher une formation maritime et je vais m'arrêter sur le diplôme d'ingénieur agronome avec la spécialisation halieutique, c'est-à-dire de la mer, de la pêche et du vivant marin. Mmh. Cette spécialisation se fait à Rennes. Donc déjà, Rennes, par rapport à Paris, c'est déjà nettement plus près de la mer, donc ça m'arrange. Et puis, je suis passionnée par ces études. Et donc, je ressors avec mon diplôme. Et là, parallèlement, je vais commencer à travailler donc, globalement pour le secteur professionnel de la mer, donc pour la pêche, pour la recherche maritime. Et en même temps, j'ai gardé dans un petit coin de ma tête l'idée que je veux partir naviguer et naviguer loin. Et je n'ai pas beaucoup d'argent. Mes premières payes ne sont pas mirobolantes. Et donc, je me dis, la meilleure façon d'avoir un bateau, c'est de le construire. Et donc, je vais me lancer... parallèlement à mes premiers jobs, donc c'est le soir, le week-end, les vacances, dans la construction d'un voilier en acier de 10 mètres, qui sera celui avec lequel je ferai ma première traversée de l'Atlantique. Et moi, j'ai aussi hérité de ça, alors je pense que c'est aussi de famille, ce goût, j'allais dire, du bricolage au sens large, ce goût de fabriquer des choses, voilà. Ouais. Donc, évidemment, fabriquer un bateau, ça va être le bricolage XXL, si je puis dire. J'ai vraiment adoré cette période de construction. Je suis avec mon compagnon de l'époque et on a, dans un vieux hangar, dans un coin de La Rochelle, là, on a notre petit bijou qui se construit petit à petit. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé ce moment-là.
Alors, je le disais en préambule, tu n'es pas un garçon manqué, tu n'aimes pas cette expression. Néanmoins, tu es quand même dans un monde à très forte majorité masculine, que ce soit dans la navigation ou dans ton monde professionnel.
Alors moi, j'ai coutume de reprendre l'expression qu'un garçon manqué, c'est une fille réussie. J'ai jamais eu le sentiment que j'étais moins femme, moins féminine, à cause des activités que je menais. Mais je crois aussi qu'on m'a beaucoup appris l'autonomie dans ma famille. Et donc, j'ai à cœur d'être autonome et de monter mes projets et mes histoires. Et j'aime la mer. Et donc, je veux naviguer, je veux faire des choses avec la mer.
Pourquoi tu dis « j'avais à cœur d'être autonome » ? Parce que pour les jeunes femmes de ton époque, allez, c'est pas un secret de dire que tu as aujourd'hui 64 ans, c'était pas la norme que d'être autonome ?
Ben, pas du tout. Quand même, la norme, c'était faut mieux se trouver d'abord un bon mari. Et on peut avoir une activité professionnelle, mais elle sera forcément quelque part un petit peu marginale. On va forcément l'arrêter si on a des enfants. Enfin voilà, c'est pas dit comme ça. Mais moi, j'ai aussi cette chance qu'en famille, on ne me dit jamais ça. On ne me dit pas, par exemple, tiens, parce que tu es une fille, une jeune fille, tu ferais mieux de faire telle étude, ou on ne me dit pas, il faudrait que tu envisages de te marier à brève échéance. Ce n'est absolument pas un discours qu'on tient dans la famille. Dans la famille, on tient justement ce discours de les filles, si vous voulez réussir dans la vie, ça ne tient qu'à vous. Donc, ayez des projets, travaillez, soyez épanouis et autonomes, quel que soit le projet que vous pouvez avoir. Si votre projet, c'est d'avoir 5 enfants, très bien. Mais si votre projet, c'est d'être astronaute, allez-y et travaillez pour ça. Enfin voilà, je caricature à peine, mais j'ai aussi cette chance que il y a une très grande ouverture d'esprit par rapport, encore une fois, aux standards donc des années, on va dire des années 60, où il n'y avait pas quand même cette façon généralisée de prendre les choses, quoi.
Est-ce que tu penses, Isabelle, que si tu avais eu un frère ou plusieurs, la réaction de tes parents, et plus particulièrement celle de ton père, aurait été la même par rapport justement à cette émancipation, à cette égalité absolue des sexes en matière de formation et de perspective ?
J'ai tendance à penser que oui. Parce que, au fond, la question pour eux, c'était la question du bonheur et de la réussite de leurs enfants, et du fait que leurs enfants trouvent leur voie, en quelque sorte, humainement, personnellement, affectivement aussi, bien sûr, même si ça les concerne un peu moins, nos histoires affectives. C'est toujours ce qu'ils nous ont dit. Donc, je pense que s'il y avait eu un ou plusieurs garçons, ils auraient tenu le même discours. On n'aurait pas eu moins de possibilités, on va dire, en tant que fille. On n'aurait pas été moins accompagnés en tant que fille. Je pense vraiment ça.
Je te cite. Tu dis, et c'est d'ailleurs étonnant parce que on a presque l'impression que tu parles d'une relation amoureuse quand tu évoques la navigation comme un plaisir charnel, sensuel, émotionnel. C'est beau tout ça.
C'est la première chose, au fond, que j'ai ressentie. La première approche du bateau, c'est quelque chose d'assez sensuel. Ça fait appel au sens. C'est-à-dire que la mer, c'est du mouvement, c'est une vision des choses, c'est des odeurs, c'est des bruits, les voiles qui claquent, l'eau contre la coque. Donc c'est un milieu vivant qu'on commence à appréhender par ses sens. Et c'est à partir du moment où on sent cette connivence avec ce milieu qu'on va après basculer sur une connaissance, on va dire, un peu plus académique, intellectuelle et formatrice. La première des choses, je pense, surtout quand on est enfant, c'est cette sensation physique globalement de tous les sens et que je continue à trouver. Je continue à avoir ce plaisir et ce bonheur d'entendre le bruit de l'eau contre la coque, de sentir le vent sur le visage. Ça m'accompagne tout le temps et que pour moi, ça enrichit cette activité. Je pourrais le faire comme un jeu d'échecs, je pourrais le faire comme quelque chose de simplement intellectuel, mais il y a aussi tout ce plaisir d'être en mer, de sentir le bateau qui bouge, la résistance de la barre, et que ça fait complètement partie du plaisir d'être en mer.
On revient à la fin de tes études et à la construction de ce bateau en métal de 10 mètres. À cette époque-là, tu rêves de quoi?
Alors, je rêve de navigation lointaine, dont la première, en quelque sorte, l'étape obligée, c'est de traverser l'Atlantique. Donc, la première idée, c'est de fabriquer un bateau qui soit d'une taille, on va dire, suffisante, hein, 10 mètres, bon, ça va, pour pouvoir me lancer au large et donc aller de l'autre côté de l'Atlantique. Et dans un petit coin de ma tête, c'est censé préfigurer des navigations encore plus lointaines. C'est-à-dire qu'à l'époque, déjà, je rêve un peu de tour du monde, de Cap Horn, de mer Australe, de toutes ces choses-là, mais finalement, je crois être quelqu'un d'assez prudent et je sais que je ne peux pas me lancer directement là-dedans. Donc, au fond, il y a cette première découverte, cette première étape qui va être de pouvoir traverser l'Atlantique. Et puis, je me dis, ben là, voilà, je vais bien voir comment ça se passe, si vraiment ça me plaît tant que ça de rester des jours et des jours sans voir la Terre, si je me débrouille bien. À l'époque, on a des sextants, par exemple, hein, il n'y a pas de GPS, donc est-ce que j'arrive à me débrouiller avec tout ça? Et au fond, je me dis, bon, ben voilà, c'est une sorte de premier pas dans cet univers du large. Et puis, ben, on verra après si on peut aller plus loin.
Alors, cette première transat, elle se passe comment?
Ben, ça se passe très bien, en fait. Je vais partir un an. J'interromps mon contrat de recherche. Je ramasse mes économies et je pars... À l'aller, donc, avec des copains, parce que là aussi, au début, c'est plus facile d'être à plusieurs. Donc, on fait tout un petit périple vers les Canaries, et puis le Brésil, les Antilles. Et là, j'ai cette envie de rentrer toute seule, d'expérimenter. Ben, là aussi, c'est un pas de plus, d'expérimenter ce que peut être une traversée de l'Atlantique en solitaire.
Sachant que c'est plus dur de revenir, parce qu'on n'a pas les alizés.
Voilà, c'est un peu différent. On n'a effectivement pas les alizés. Je vois que tu es un bon marin. Et donc la navigation est un petit peu plus incertaine. C'est une étape, et je me souviens très bien de quitter les Antilles avec les copains qui sont sur la plage, et je vois les petites silhouettes qui diminuent au fur et à mesure que je m'éloigne, et c'est le soir, et comme souvent aux Antilles, c'est arrive une belle nuit étoilée, et pour moi c'est un moment fort, parce que là c'est moi-même qui suis au rendez-vous de mes rêves ou pas.
Est-ce qu'à ce moment-là, Isabelle, tu es gagnée par une forme d'appréhension de te retrouver seule devant ces milliers de kilomètres à parcourir sur ton voilier ?
Alors honnêtement, c'est plutôt de l'excitation. Il y a toujours une petite pointe de se dire comment ça va se passer. Ce dont je me souviens, c'est quand même que voilà, bah, ça y est, on se retrousse les manches, on attaque un gros morceau, j'ai cette faim d'y arriver, quoi. Donc je suis plutôt dans une ambiance, dans un état d'esprit assez positif.
Avec de la compétition quand même déjà, tu te dis tiens, il faudrait que j'aille le plus vite possible.
Alors pas du tout au début. D'ailleurs, moi j'ai pas été élevée dans cet esprit-là. À chaque fois qu'on a navigué en famille, c'était plus pour se balader. On m'a pas inscrit par exemple dans des clubs de voile qui feraient des compétitions, des choses comme ça. Jusqu'à ce moment-là, la compétition n'est pas vraiment mon histoire, on va dire. Je prends le temps de découvrir cette espèce de connivence qu'on peut avoir avec le milieu et avec la nature, qui est renforcée par le fait qu'on y est seul. Parce que là, bah, y a plus de filtre. On est vraiment soi-même dans l'élément, et puis on est un tout petit point sur la carte. Hein, on regarde à 360, il n'y a que de l'eau, il n'y a personne. Donc on est complètement autonome aussi. Donc voilà, tout ça est quand même assez excitant.
Est-ce que à ce moment-là, tu apprends des choses sur toi, sur tes compétences ? Et est-ce que tu sens poindre cet appel de la course ?
Pas complètement à ce moment-là. Ça viendra un tout petit peu plus tard. Ça viendra quand j'arriverai à terre de l'autre côté, donc quand je reviendrai à La Rochelle.
Mais est-ce que tu apprends des choses sur
toi ?
Oui,
bien sûr. D'abord, j'apprends que je peux me supporter moi-même pendant un certain nombre de semaines. Voilà, c'est quand même important. J'apprends que je suis capable de faire face à la situation dans laquelle je me suis mis. Et après, je serai toujours assez attachée à ça, c'est-à-dire toujours essayer de se mettre dans une situation, comment dire ça, pas d'inconfort, mais de doute, de découverte, de nouveauté. Au fond, ce qui me fait avancer, moi, c'est essayer, au fur et à mesure que je sais mieux faire des choses, bah, d'aller franchir la marche d'après, d'aller me mettre dans une situation un petit peu différente, un petit peu nouvelle, et au fond de me challenger moi-même, quoi. Et là, au fond, je vais apprendre que je suis effectivement très bien sur l'eau toute seule, que j'arrive à avoir cette sérénité nécessaire, que en gros, je fais pas de bêtises dans ma navigation, hein, ça se passe bien, j'arrive à gérer les petits imprévus, les petits voilà. Donc ça me conforte et ça me rassure en quelque sorte sur moi-même, parce que voilà, c'est encore une fois la première fois où je suis vraiment livrée à moi-même dans ce milieu. Et c'est d'autant plus fort, je crois, que comme c'est mon rêve depuis longtemps, ça aurait été terrible, je pense, de vivre une déception. Ça aurait été terrible que je m'aperçoive que finalement je m'ennuie, ou que finalement je suis malheureuse parce que je peux parler à personne, ou que finalement je suis mauvaise et que je prends les mauvaises décisions. Là ça aurait été, je pense, assez violent. Mais bon, ça se passe bien, j'arrive de l'autre côté, j'ai un grand sourire jusqu'aux oreilles, et je suis prête à l'étape d'après, quoi.
Quelle est la réaction de tes parents à ce moment-là, quand ils te voient revenir de cet aller-retour sur l'Atlantique, eux qui t'ont 1000 pieds à l'étrier ?
D'abord, quand je suis revenue toute seule, je ne leur ai pas dit.
Ils l'ont appris quand t'es arrivée ?
Ouais, exactement. D'abord, ils savaient que j'étais partie avec un équipage, et je leur avais dit je vais revenir, et puis j'arriverai à peu près à tel moment à La Rochelle. On n'avait pas beaucoup de moyens de communication à l'époque, hein. Il n'y avait pas de téléphone satellite, il n'y avait rien. Donc à un moment donné, je leur téléphone, et puis je leur dis je pars des Antilles et je serai à La Rochelle à peu près vers tel moment. Mais je ne veux pas les inquiéter, je préfère ne pas leur dire que je suis toute seule. Donc c'est pas un petit mensonge, enfin c'est un mensonge par omission, comme on dit, hein. De fait, quand je vais arriver, je vais leur dire voilà, tout va bien, je suis arrivée, puis d'ailleurs au fait j'étais toute seule. Et c'est drôle parce que ils sont pas si surpris que ça. Je sais pas s'ils l'avaient imaginé ou anticipé, mais En tout cas, ça leur paraît pas si étrange que ça.
Ils sont fiers ?
Ben, je ne sais pas, parce que je crois que, d'abord, ils nous ont toujours beaucoup fait confiance, à nous, leurs enfants. Ils nous ont toujours pensé qu'on serait capable de faire face aux difficultés qu'on pouvait rencontrer les unes et les autres. Et je pense qu'ils ont aussi, c'est difficile de parler à leur place, toujours pensé que ce n'était pas leur affaire, au fond. On était majeurs et vaccinés et on menait nos vies comme on le souhaitait et que c'était pas à eux de nous dire quand on avait 22, 23, 24 ans, il faut que tu fasses ci ou il faut que tu fasses ça. Je crois qu'ils ont toujours été extraordinairement respectueux de nos parcours aux unes et aux autres, de ce qu'on voulait faire. Alors après, quand j'ai décidé de faire une course autour du monde en solitaire, là je les ai prévenus avant, bien sûr, puisque de toute façon ils l'auraient forcément su avant. Mais bon, c'était différent. Et puis je leur dis, ben voilà, j'ai déjà traversé l'Atlantique toute seule, donc maintenant, la marche d'après, c'est le tour du monde. Et...
C'est au moment où tu mets le pied à nouveau sur le territoire français que commence à naître cette envie de faire de la compétition,
oui.
De vivre, d'embrasser une carrière de marin professionnel ?
Faire de la compétition, c'est à ce moment-là que ça naît, et je dois dire que ça naît d'un constat. Quand je reviens en France, je suis partie pendant un an, hein, j'ai baguenaudé en bateau pendant un an, j'ai vécu des choses magnifiques, j'ai rencontré plein de gens, j'ai navigué, etc. Et je reviens et je suis au fond assez frappée que, en France, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Il y a les mêmes gens aux mêmes endroits qui disent les mêmes choses, qui font les mêmes choses. Et ça, je ne veux pas ça, moi, pour moi. Je ne veux pas revenir dans une routine où, finalement, je me mettrais un peu à radoter avec mes trucs. Et donc, je veux refaire un projet, je veux me re-challenger sur autre chose. Il faut que cette sorte d'émulation continue. Et je me dis, mais la compétition, ça a un gros avantage, c'est que ça vous oblige à en apprendre plus. Si on veut être meilleur que les autres, il faut être meilleur en manœuvre, en météo, en gestion du bateau, en plein de choses. Et là, je vais me plonger là-dedans. Et donc, ça rejoint l'espèce de rêve de petite fille de ce qui se disait quand je serai grande, j'irai au Cap Horn, ou quand je serai grande, je ferai le tour du monde. Les choses commencent à se dessiner à ce moment-là, mais c'est vrai que les premières années où je vais faire de la course, je ne suis pas une professionnelle de la course, je ne gagne pas ma vie avec ça. J'arrive à trouver des petits sponsors pour payer le bateau, mais c'est à peu près tout. Donc moi, je casse ma tirelire ou je travaille entre les deux pour pouvoir arrêter de travailler au moment où je pars faire des courses.
Isabelle Autissier, bon, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais c'était encore plus flagrant à l'époque. Il y a très peu de femmes dans le monde de la course au large. Est-ce que c'est un avantage d'arriver en étant une femme ?
Alors, parfois oui, parfois non. À l'époque, et c'est encore un peu vrai aujourd'hui, peut-être un peu moins, les femmes ne sont pas les bienvenues dans des équipages. Soit c'est des vieux marins qui pensent que ça porte malheur, mais même sans ça, on considère qu'elles sont moins fortes physiquement, que peut-être aussi moralement, elles sont moins costauds, que ça peut faire des problèmes avec les garçons, les équipages, enfin voilà. Il y a plein de mauvaises raisons pour se méfier, en fait, des femmes dans les équipages. Et donc, assez naturellement, les femmes font du solitaire. Et moi, c'est vrai que j'ai été complètement fascinée hein, par ces histoires de solitaire, mais c'était aussi assez normal et naturel, puisque j'aurais eu beaucoup, beaucoup de mal à trouver un équipage qui veuille de moi. Surtout qu'à l'époque, je n'étais pas connue du tout. Je n'avais pas fait de course, je n'avais évidemment rien gagné. Donc finalement, le fait de se dire, après tout, je demande leur avis à personne, je me trouve un sponsor, un bateau, puis je pars faire des courses en solitaire, c'était finalement une voie plus simple. Et j'en veux pour preuve que les grandes navigatrices, en tout cas en France, ce sont toutes des solitaires. Ce sont des Florence Artaud, en Angleterre, des Helen MacArthur. Et par rapport à des sponsors, c'est positif et négatif. C'est négatif dans le sens où on est supposé ne pas être capable de gagner, parce qu'on est une femme. Donc on est supposé être moins bonne que les garçons. Et c'est positif dans le sens où, comme il y a extrêmement peu de femmes. En termes de médiatisation, il y a forcément un delta plus parce qu'on parle plus des rares femmes qui font ça, etc.
Est-ce qu'il y a une forme de jalousie des marins hommes et est-ce que les rapports sont parfois un peu difficiles, tendus? On sait que tu as ton caractère, tu te laisses pas marcher sur les pieds. Est-ce qu'à certains moments, il a fallu que tu tapes un peu du poing sur la table pour faire ta place dans ce milieu très masculin?
J'ai fait ma place sans taper du poing sur la table. J'ai fait ma place parce que j'ai fait mes trucs dans mon coin et que quand ça a marché, quand j'ai été devant ou dans le, on va dire dans le paquet de devant, bah j'ai prouvé sportivement ce que je savais faire. Et quand même, le milieu des marins sait reconnaître les siens, comme souvent dans la compétition. Donc, à partir du moment où ben voilà, j'avais fait des belles actions maritimes, on va dire, et j'étais dans le bon peloton, il n'y avait pas trop de discussions. Et donc ça a été une façon d'arriver, de m'imposer sans avoir à dire « poussez-vous les gars, j'arrive ou je vais vous montrer ce que vous allez voir, ce que vous allez voir ». Moi, je n'ai jamais eu ce type de discours. Les choses se sont faites finalement assez naturellement. J'ai eu aussi la chance que la première grande course que je fais, donc une transat en solitaire, je gagne la première étape, je finis troisième au général, donc là, il n'y a plus de discussion, quoi. J'ai mérité, en quelque sorte. Et puis, si parfois il y a eu quelques petites réflexions, en fait, la meilleure solution, c'est de les tourner à la rigolade et de blaguer avec ça, quoi. Je me souviens que, par exemple, la première grande étape que je gagne dans un Tour du Monde, on était 8 dans ma catégorie. Évidemment, les 7 autres étaient des garçons. Et la grosse blague qui courait, c'était c'est Blanche-Neige et les 7 nains, mais c'est Blanche-Neige qui a gagné, quoi. Et honnêtement, je pense que le milieu des marins n'est pas si macho que ça.
Isabelle Autissier, arrivons en 1991. Tu as 34 ans, et là tu pars pour ce fameux Tour du Monde. Le Bock Challenge, c'est comme ça que s'appelle cette compétition, un Tour du Monde en solitaire avec escale. Ça paraît un peu fou quand on sait que tu n'es jamais allé avec un bateau à voile dans le Grand Sud.
Bah oui, c'est un peu fou, mais je vais passer de longues semaines à peser le pour et le contre. À me dire, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, je connais pas ces mers-là, les très grands bateaux comme ça, c'est quand même des bateaux de 18 mètres de long, j'ai pas d'expérience ou très peu d'expérience.
C'est une compétition pour monocoque, hein, ouais, on le précise.
Absolument. Donc ça paraît une marche énorme, mais en même temps, j'en suis à un point de ma carrière, entre guillemets, maritime, où j'ai pas beaucoup le choix. Soit je franchis la marche, soit je stagne et à moyen terme, j'arrête. Et au fond, ce qui va emporter le morceau dans cette histoire, c'est qu'à un moment donné, je me dis, mais bon sang, je rêve de faire ça. Si j'essaye pas, je suis sûre de pas y arriver. Donc là, maintenant, j'ai l'énergie, j'ai l'envie, faut que j'essaye. Et à ce moment-là, faut que je jette toutes mes forces dans la bataille et on verra ce qu'on verra. Au fond, c'est ça qui va emporter le morceau. C'est de me dire, c'est le moment. Alors, où tu vas, où tu te confrontes à tes rêves, ou bien tu restes à la maison et après, faudra pas venir pleurer que tu l'as pas fait, quoi.
Quels ont été, Isabelle, les moments les plus difficiles de cette course ? Où tu termines septième malgré un dématage.
Je me souviens que dans la première étape, par exemple, j'ai un problème avec mon groupe électrogène. On a quand même besoin d'énergie sur ces bateaux, ne serait-ce que pour faire marcher le pilote automatique, pour pouvoir avoir l'ordinateur qui reçoit la météo, c'est quand même essentiel. Donc on a besoin d'énergie. Moi, j'ai un problème avec mon groupe électrogène et je ne suis pas, très bonne en mécanique, on va dire. Et donc là, j'ai effectivement un petit moment un peu de découragement. Je ne sais pas comment prendre le truc. Finalement, c'est là que le solitaire, c'est quand même très productif. C'est que justement, il n'y a personne pour t'aider. Surtout à l'époque où, encore une fois, on avait des communications avec la Terre qui étaient très compliquées, donc très rares. Je me dis, maintenant, ma vieille, il faut que tu te débrouilles, quoi. Personne ne va faire le truc pour toi. Et je m'y mets, et il me faut au moins 3 jours pour arriver à comprendre quel est le problème, quelle est la panne, qu'est-ce que je peux faire, et finalement réussir à réparer. Mais c'est vrai que là, il y a un moment où je suis dans le dur, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire, c'est un moment où on se dit, après tout, est-ce qu'il ne va pas falloir que j'abandonne, si vraiment je n'y arrive pas. Enfin voilà, il y a une vraie incertitude, et c'est là qu'il faut... faire appel à toute cette détermination et faire appel à tout ce pourquoi et au nom de quoi on a pris la décision et on s'est engagé et on a bossé et on a parfois mouillé des gens autour de soi qui vont donner des coups de main, etc. Donc il faut battre le rappel un peu de toutes ces bonnes raisons pour se dire, bon allez, bah, maintenant, voilà, hein, on pleurniche pas, on y va, quoi. Et j'ai eu la même chose quand je démate. Quand je démate, je suis au large de l'Australie. J'aurais pu dire, bon, bah, c'est bon, hein, comme on dit dans le métier, je bâche. Je rejoins la terre la plus proche et puis j'ai dématé, la course est finie, quoi. Et là, c'est un peu la même chose. Je me dis, mais non, mais attends, c'est nul, tu vas pas t'arrêter. Bon, il faut faire un gréement de fortune, il faut te débrouiller, il faut pédaler pour arriver à faire quelque chose. Donc, je crois que ces moments-là, qui effectivement sont des moments où on peut douter et où il faut vraiment se remobiliser pour dépasser les problèmes, quoi.
Et les fameuses mers du Sud, les icebergs, des endroits que tu découvrais finalement?
Alors ça, c'est le bonheur absolu. Cette ambiance des mers du Grand Sud, c'est quelque chose que j'oublierai jamais et que je continue à fréquenter, Grand Sud ou Grand Nord. Ce sentiment d'immense qu'on a encore plus quand on est là-bas, ces houles gigantesques, ces mers pas toujours faciles, mais ces lumières extraordinaires parce qu'on a les rayons du soleil comme ça qui effleurent, hein, qui sont plus tangentiels, on va dire, par rapport à la surface de la Terre, les albatros, les baleines. Pour moi, c'est une vraie découverte sur ces choses très sensuelles. Ce sont des nouveautés, c'est d'une beauté absolue. Je suis complètement conquise par ces milieux-là, même si je meurs de froid, même si c'est un peu compliqué de temps en temps. Mais la fréquentation de ces lieux immenses de la planète me comble complètement.
Quelle importance tu donnes au fait d'être la première femme à avoir bouclé un tour du monde en solitaire à la voile?
Aucune importance. Ça allait arriver un jour qu'il y ait une femme qui soit la première à le faire. Bon, il se trouve que...
Oui, mais enfin, c'est toi.
Il se trouve que c'est moi, voilà. Par un ensemble de je sais pas quoi, de hasard, de mon histoire à moi, qui a la petite histoire qui rencontre la grande histoire, mais je vois pas en quoi ça me donne plus de valeur. C'est plus la réaction des autres qui est marrante à ce moment-là. C'est-à-dire que les gens disent « Ah là là, t'es la première femme !» Bah oui, so what, quoi. Encore une fois, il fallait bien qu'il y en ait une. Donc, c'est plus ça qui est un peu marrant à gérer. C'est ce que les autres vous renvoient, quoi. Mais pour moi, honnêtement, j'ai jamais pensé que ça changeait quelque chose, quoi.
Si on regarde les femmes qui, un peu avant toi ou en même temps que toi, ont brillé dans la course au large, il y a Florence Artaud. Est-ce que c'est un exemple, un modèle? Même si, quand on regarde vos deux parcours, beaucoup de choses vous opposent, notamment votre façon d'appréhender la médiatisation et la mise en lumière de ce que vous faites.
Elle est quand même une forme de modèle. Elle montre bien comment, sur l'eau, une femme, et surtout en solitaire, peut réussir. On se souvient évidemment de sa victoire dans la Route du Rhum. Je dirais que ça s'arrête un peu là. C'est vrai qu'on a, chacune, de par notre parcours, des spécificités. Elle, on a parlé d'elle comme quelqu'un d'un peu solaire, d'un peu flambeur. C'est son caractère, hein. Moi, je suis une ingénieure. Je suis quelqu'un de beaucoup plus, je pense, hein, globalement, posé, mesuré. Moi, je fais les choses quand même de manière très contrôlée, quoi, la plupart du temps.
On en arrive à ce grand moment de ta carrière, dans les années 96-97, le Vendée Globe, ce tour du monde en solitaire sans escale sur ton tout nouveau bateau PRB. Et malheureusement, t'es disqualifié parce que t'es obligé de réparer ton bateau en t'arrêtant au Cap, en Afrique du Sud. Et c'est rageant parce qu'à l'arrivée, tu finis sur les talons du gagnant, Christophe Auguin.
Ça va être très cruel, hein. Je vais, alors que je suis dans le trio de tête, heurter quelque chose avec mon bateau qui va détruire un des deux gouvernails. Il est hors de question de continuer, bien sûr. Je suis obligé de m'arrêter à Cape Town, en Afrique du Sud. Et m'arrêtant à Cape Town, je suis d'entrée de jeu disqualifié, puisque, comme son nom l'indique, c'est une course sans escale. Je me souviens que j'étais encore en mer et j'échange avec mon sponsor, qui était PRB. Je l'appelle, je dis, ben voilà, bagage est cassé, je rentre à Cape Town et il me dit bon, et alors, tu veux faire quoi? Bah, je lui dis bah, je continue. Pour moi, c'était une évidence. L'idée, c'était le tour du monde. J'avais signé pour ça, je m'étais engagé pour ça, mon équipe avait travaillé pour ça, mon sponsor me sponsorisait pour ça. Il y avait une forme de fidélité, enfin en tout cas de promesse que je devais tenir. Donc tout de suite, il me dit bon bah ok, donc il faut vous fabriquer un autre safran, on va te l'envoyer là-bas. Et du coup, j'ai été pour la deuxième partie en quelque sorte de ce Vendée Globe à partir de Cape Town dans une situation un peu étrange puisque j'étais disqualifiée officiellement. Mais moi, j'ai continué à y aller comme si j'étais en course. C'est-à-dire, j'ai continué à mener le bateau comme en course, comme je l'aurais fait si j'étais classée. Pour moi, personnellement, il y a eu ce moment de grande déception, de me dire, ben voilà, je suis disqualifiée. Mais parce que je continuais avec autant d'énergie et autant d'enthousiasme, je pense que ça a atténué pas mal les choses. Et c'est vrai qu'à l'arrivée, j'arrive à peu près 24 heures derrière Christophe Auguin qui gagne le Vendée Globe. Et que c'est très émouvant parce que je suis accueillie au Sable d'Olonne comme si j'étais deuxième de la course. C'est-à-dire que dans l'esprit du public, dans l'esprit des gens, finalement, eux aussi, ils ont oublié que j'étais disqualifiée. Je me souviens, mais c'est une grosse fête au Sable d'Olonne, quoi. C'est vraiment très fort. Et finalement, au fond, qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Il reste que je ne fais pas partie de la liste des gens qui ont fini le Vendée Globe, mais que dans ma tête et même dans la tête de beaucoup de gens, je l'ai quand même fait, quoi. Ce qui a été important, c'est que moralement, j'ai tenu mon engagement, que ce faisant, j'ai continué à prendre énormément de plaisir à naviguer. J'ai fait des super coups météo, voilà, j'ai bien géré le bateau. Je pense que j'ai aussi fait plaisir aux gens qui me faisaient confiance. Et que ça, pour moi, c'est quand même extrêmement important.
À quel moment tu décides d'arrêter ta carrière? Est-ce que c'est finalement lorsque tu chavires sur une nouvelle course autour du monde en 1999?
C'est pas exactement ça. En fait, quand j'ai fini le Vendée Globe, je me dis bon, je vais pas faire ça toute ma vie. Mais je m'en ferais bien encore un petit, parce que c'est bien, c'est voilà, j'aime ça, c'est sympa, et puis bon, je pourrais éventuellement le gagner quand même, hein, parce que je vois bien que je suis au niveau, comme on dit. Mais je me fais la promesse que quoi qu'il arrive après ce donc qui va être ce quatrième tour du monde en solitaire, quoi qu'il arrive, j'arrêterai. Si je veux changer de vie, ce sera le moment. Si je veux partir dans autre chose, si je veux... Donc voilà, je me dis, ben oui, je refais un tour du monde et je me promets à moi-même que, quoi qu'il arrive, ce sera le dernier. Qu'après, je ferai autre chose.
Donc, ce n'est pas le chavirage qui te persuade de mettre un terme à ta carrière de marin professionnel?
Alors, le chavirage, elle aurait pu me persuader du contraire. Et d'ailleurs, ça m'a un tout petit peu fait hésiter. J'ai eu la petite tentation de me dire, oh, c'est trop bête. Bon là, voilà.
Je vais prendre ma revanche.
J'ai chaviré pour une question d'équilibre du bateau et de design du bateau et de construction. Mais s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais peut-être pu gagner. Donc après tout, peut-être que je pourrais retenter le coup encore une fois. Et je me dis non, tu t'es promis que tu lui arrêtais, donc voilà, tu vas faire autre chose maintenant. Dans cette aventure, au moment où le bateau se renverse et se met à l'envers, voilà, c'est dur, hein, parce que non seulement je sais pas trop ce qui va se passer, enfin j'ai heureusement organisé tout le bateau pour faire en sorte que même à l'envers je pouvais communiquer, je pouvais rentrer sortir. Et là, évidemment, je me dis maintenant pourvu que tout marche bien et puis que je m'en sorte. Et puis, maintenant, c'est foutu. Je ne le gagnerai pas, ce tour du monde, même si je m'en sors. C'est un peu dur, psychologiquement, quoi. Hein,
Tu as eu peur pour toi, à ce moment-là?
Alors, oui, on a peur. En fait, c'est la deuxième fois que ça m'arrive d'être dans une situation compliquée. Hein. Ça m'était déjà arrivé en 1994, où le bateau avait fait un tonneau dans le Grand Sud. C'est des moments où, en fait, on a un peu l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. Hein. On a un hémisphère qui est dans l'inquiétude, dans l'anxiété, puis on a l'autre qui est l'hémisphère, comment dire, très coordonné, très rationnel, qui te dit, si le bateau est plein d'eau, tu prends un seau et tu le vides, quoi. Et puis, t'arrêtes de te raconter des histoires parce que ça sert à rien. et sois efficace, bouge-toi, et puis c'est la meilleure solution. Donc en fait, on a un peu les deux, la confrontation des deux en quelque sorte dans la tête, et il faut vraiment se contraindre à laisser ce côté rationnel prendre le dessus. Et parce que plus on rentre dans des actions, plus on se met en branle pour faire des choses, plus on fait reculer l'angoisse et la peur. Plus on est sur un chemin de se dire, ben, je trouve des solutions, je les mets en œuvre, et donc plus je mets en œuvre de solutions, plus j'ai de chances de m'en sortir. Et si je m'étais un peu, entre guillemets, laissé aller à m'asseoir par terre dans le bateau pour me mettre à pleurer, je pense que j'aurais à ce moment-là privilégié et laissé gagner le côté plus négatif des choses. Alors après, il y a peut-être aussi que je suis une optimiste invétérée et que je vois toujours le verre à moitié plein. Ça, c'est possible aussi. Hein.
Tu parlais il y a un instant de t'asseoir et de pleurer. Est-ce que parfois tu pleures? Est-ce que c'était arrivé en bateau de ne pas trouver de solution, d'être presque dans une impasse? Parce qu'on a du mal à l'imaginer.
Je me suis jamais assise dans le bateau pour pleurer. Ça m'est jamais arrivé. J'ai pu râler, j'ai pu être un peu en colère contre moi-même. Donc ça, je pense que c'est un trait assez fondamental de mon caractère et que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Je peux avoir des grandes inquiétudes et des grandes questionnement sur qu'est-ce qui va se passer pour les humains, pour la planète, etc. Mais tous les matins, je me lève en me disant ben, bouge-toi, bats-toi. Et ça, c'est la meilleure façon de tenir à l'écart les sentiments négatifs, l'angoisse, parce que je peux en avoir. Bien sûr, comme tout le monde, ça m'arrive de me réveiller la nuit avec des trucs qui me tarabustent et je me dis je ne vais pas y arriver, ça ne va pas le faire. Et puis le matin, quand je me lève, je me dis, bon, alors, comment je fais, quoi? Concrètement, ouais. J'y vais, quoi. Et on ne va pas le faire pour moi, donc il faut que j'y aille.
Isabelle, beaucoup de sportifs, à l'arrêt de leur carrière, parlent d'une petite mort. Est-ce que toi, à l'approche de la cinquantaine, quand tu décides de passer à autre chose, ça a été compliqué à vivre psychologiquement?
Alors, pas tant que ça, parce que j'avais déjà dans ma besace des tas d'envies d'autres choses. Par exemple, j'avais très très envie, après avoir navigué le plus vite possible, et de naviguer lentement, c'est-à-dire de savourer. Je me souviens quand je suis quand même passée plusieurs fois devant le Cap Horn en course, je voyais cet endroit extraordinairement impressionnant, ces grandes falaises, tout ça, ces glaciers, etc. Et à chaque fois, je me disais, waouh, quel endroit génial, mais j'aimerais bien y revenir tranquille. On m'a très vite proposé de faire ces émissions de radio, et ça m'a énormément plu. J'ai fait ça pendant une quinzaine d'années après, donc ça, c'est venu tout de suite au moment où j'ai arrêté de naviguer en course. J'ai jamais arrêté de naviguer tout court. Il y avait l'histoire de l'écriture. J'ai toujours été une grande lectrice. L'écriture, c'est C'était un peu mon moyen d'expression, plus que par exemple certaines personnes sont meilleures à faire des photos ou des films. Moi, voilà, le raconter avec des mots, ça me plaisait. Donc, je ne voyais pas encore très clairement ce que j'allais en faire. Je n'avais pas encore l'idée de devenir vraiment romancière. Et puis, il y avait les questions de l'environnement, où je savais dans un coin de ma tête, parce que les questions environnementales, je les avais mesurées quand j'étais ingénieure des pêches. Hein. Je voyais bien, par exemple, sur la pêche, comment on était en surpêche, comment le fait de ne pas être en harmonie avec la nature conduisait les humains, les pêcheurs à des désastres. Donc, j'avais cette petite graine qui était là. Je m'étais aussi dit, je prendrais du temps pour ça, pour m'impliquer plus, pour être entre guillemets militante dans une association, parce que je sentais aussi petit à petit grandir l'urgence.
Et en 2009, cet appel de la nature et de la protection de l'environnement te mène à la présidence du WWF, le Fonds mondial pour la nature. Est-ce que tu as toujours eu, depuis ta plus tendre enfance, une âme de militante?
J'ai toujours eu une âme de militante, j'ai toujours eu un esprit engagé, j'ai toujours pensé que quand on a des convictions, il faut les défendre. J'ai toujours eu envie de m'engager personnellement pour les causes qui me paraissaient importantes.
Alors justement, quand tu acceptes cette présidence, c'est pour relever quel challenge ?
Il y a quand même une idée qui domine pour moi à ce moment-là, c'est ce sentiment d'urgence. Je vois aussi les dérèglements qui commencent à arriver, je vois un certain nombre d'espèces sauvages qui sont mal en point, donc il faut que j'y aille. Et donc il faut que je m'engage, et c'est au nom de ça que j'accepte cette présidence. Avec l'expérience que j'ai, qui a beaucoup été créée par la voile et ce que j'ai fait en matière de voile, je sais que ça, c'est quelque chose que je suis capable de faire. Je suis connue, je sais que je suis plutôt appréciée, on va dire, en moyenne des gens, que je sais parler aux gens parce que je l'ai fait très souvent, et puis que peut-être je peux effectivement apporter quelque chose.
Alors, quelles sont les urgences aujourd'hui ? Parce que ça fait 11 ans que tu es à la tête donc du Fonds mondial pour la nature.
Alors malheureusement, il y en a beaucoup. Il y a toute la question de la vie sauvage et de l'équilibre de la vie sur cette planète. Au fond, nous avons besoin de toute la vie de la planète. Nous avons besoin du moindre ver de terre. Nous avons besoin du moindre plancton qui nous fournit de l'oxygène. Et nous sommes en train de tirer contre notre camp en dévastant cette vie sauvage. Et puis bien sûr, la question des pollutions. Moi, je suis très sensible, par exemple, à la question du plastique. Donc aujourd'hui, il y en a partout. Il y en a dans les grandes fosses océaniques, il y en a en Antarctique, il y en a en Arctique, mais ce qui me remonte le moral, c'est qu'il y a des centaines et des milliers de solutions. On n'est pas sans solution. Et puis, on a déjà développé un tas de solutions. Si je prends la question de l'énergie, les énergies renouvelables, aujourd'hui, l'énergie solaire, c'est moins cher que l'énergie qui vient du pétrole. Donc, c'est juste un exemple. Ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, on en a des dizaines, des centaines, un peu partout. Maintenant, ce qui est extrêmement important et qui est le sens de ma mobilisation, c'est d'entraîner tout le monde, c'est-à-dire aussi bien les citoyens, les entreprises, les collectivités, les États, vers une évolution de nos façons de vivre, de produire, de consommer, de s'organiser, de manière à pouvoir retrouver une certaine forme d'harmonie avec la nature pour pouvoir protéger nos sociétés humaines. Parce qu'on sait bien que la dégradation des conditions environnementales, ça aboutit inévitablement à des souffrances.
Isabelle, quand je t'entends parler de l'environnement, je retrouve la jeune fille qui était passionnée par la voile avec cet optimisme chevillé au corps. C'est-à-dire que même s'il y a des problèmes, toi, tu préfères tout de suite te tourner vers les solutions.
Si je ne pouvais pas agir, si je n'essayais pas d'agir, même avec le sentiment que ce que je fais est tout petit, là, je déprimerais carrément, quoi. Donc, au fond, l'action, ça me permet de garder le sourire, ça me permet de me lever le matin. Et plus on y croit, plus on le met en œuvre, plus on le met en œuvre, plus on se sent debout, solide sur ses deux pieds, et plus on est prêt au combat, quoi.
Est-ce que quand tu as un peu de temps, tu repars naviguer ? Et est-ce que dans tes rêves les plus fous, tu te dis qu'un jour peut-être, tu pourrais à nouveau voguer autour du monde ?
J'ai jamais arrêté de naviguer, c'est même la première chose que je mets dans mon emploi du temps annuel. J'ai maintenant un bateau qui est plus un bateau d'expédition, en particulier dans les mondes polaires, où j'emmène des écrivains, des photographes, des scientifiques. Alors après, est-ce que je refais un tour du monde ? Peut-être, sûrement pas en course, parce que je crois que là, c'est une page que j'ai tournée définitivement, et puis que si je voulais refaire la course, il faudrait que je recommence à m'entraîner, que j'en refasse à nouveau 120% de mon temps. Ça, c'est pas mon projet. Maintenant, un tour du monde, pourquoi pas, peut-être.
J'ai quand même l'impression que c'est un peut-être qui pourrait se transformer en oui assez rapidement ou facilement.
Oui, ça, c'est pas impossible, mais si ça se fait pas, c'est pas grave si je refais pas un tour du monde. J'ai plein d'autres choses super à faire, mais j'aime pas fermer les portes, en tout cas.
J'ai l'impression, Isabelle Autissier, que les années n'ont pas de prise sur toi. Est-ce que ce n'est qu'une impression ?
Maintenant, j'ai mal au dos le matin quand je me lève et je suis obligée d'avoir des lunettes. voilà. Et je suis sûrement moins costaud physiquement, je le sens quand je suis sur le bateau aussi. Il faut que je m'organise un peu plus. Maintenant, je crois qu'intellectuellement, il n'y a pas de raison que j'ai moins de capacité intellectuelle aujourd'hui. Il n'y a pas de raison que j'ai moins d'énergie. De ce point de vue-là, j'espère que je ne vieillis pas trop vite.
Est-ce que tu es heureuse ?
Oui. Globalement, j'arrive à faire à peu près ce que je veux avec des gens que j'aime et qui m'intéressent. Voilà. Alors ça, c'est un bonheur incommensurable dans la vie. J'ai bien conscience que je suis une privilégiée de pouvoir faire ça. J'ai ce bonheur tous les matins de me lever en disant « bon, alors, super ». Une bonne journée qui commence. Des fois, je vais juste dans mon jardin bêcher, mais je fais les choses avec plaisir, quoi. Et je fais ce que j'ai envie de faire. Je l'ai toujours défendu. J'ai fait ça aussi au prix d'une certaine forme d'insécurité, hein. Moi, je ne suis pas salariée de quelqu'un. Je me débrouille, voilà. J'ai choisi de ne pas avoir d'enfant. Voilà. Mais c'est des choix que j'assume complètement parce que honnêtement, j'enlèverais pas grand-chose dans ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, quoi. C'est peut-être un petit peu gonflé de dire ça.
Est-ce qu'il te manque pas finalement cette grande ligne sur ton palmarès, un petit peu à l'image de ce qu'a pu réaliser Hélène MacArthur, qui a battu le record du Tour du Monde à la voile, après avoir terminé deuxième du Vendée Globe ?
C'est sûr que j'aurais bien aimé ça. C'est peut-être une page qui n'a pas été complètement achevée. Peut-être que j'aurais dû me dire qu'après 4 Tours du Monde, j'aurais dû en faire un cinquième. Peut-être que je l'aurais gagné, je ne sais pas. Moi, j'ai assumé à un moment de dire stop, je fais autre chose et je vais ailleurs. Évidemment, il y a toujours cette idée que peut-être ça aurait pu se passer autrement. Oui, bien sûr, j'aurais aimé gagner un Tour du Monde. Il ne faut pas le voir comme réussite-échec. C'est un chemin de vie qui, à un moment donné, s'est déroulé comme ça. Et encore une fois, j'aurais pu faire d'autres choix et j'ai fait cela. Et je crois qu'après, il faut les assumer, quoi.
Merci beaucoup, Isabelle Autissier. J'aime ta franchise, ta sérénité, ton énergie. Ta vie est trépidante et j'ai aimé partager avec toi ces expériences aussi différentes que ce métier d'ingénieur, la course au large, cette fonction de présidente du WWF et tout ce qui t'interpelle dans l'évolution, pas toujours dans le bon sens de la nature. Encore une fois, merci d'avoir pris le temps dans un agenda extrêmement chargé.
Ben merci pour ce grand moment.
Parler de toi, de parler de ta vie si riche d'envie d'aventure.
Merci beaucoup.
Merci infiniment de votre fidélité. Quel bonheur de partager cette aventure podcast avec vous. Alors si vous avez des remarques, des suggestions, des propositions, n'hésitez surtout pas à me contacter sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram ou encore Facebook. Si l'épisode vous a plu, profitez-en pour vous abonner, partager, laisser 5 étoiles ou un commentaire sur votre application de podcast préférée. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité dans Vie d'aventure. Je compte sur vous. Très belle journée.